Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Ce cours a tout pour nous déconcerter. Intitulé « Le suburbium de Rome, recherche sur l'organisation religieuse du territoire de Rome », il interroge le rapport que les anciens Romains entretenaient avec l'espace à la fois juridique, religieux et politique de leur ville. John Shedd, titulaire de la chaire « Religion, institutions et société de la Rome antique », interroge ici les limites topographiques de la ville de Rome, dont le contour archaïque aurait été tracé, disait-on, par Romulus aux alentours du VIe siècle avant notre ère. John Shedd s'efforce ici de nous déprendre des idées reçues sur l'histoire mythique de la ville et de ce que, jusque-là, nous pensions connaître des anciens Romains. Où commence le suburbium, c'est-à-dire, pour traduire vite, la banlieue de la Rome antique ? Et de quand date l'Antiquité dont nous parlons ? C'est à ce genre de questions que John Shedd répond ici. Nous savions déjà que la banlieue était, dans l'Antiquité, un lieu de villégiature pour les riches Romains. Mais où la ville s'arrêtait-elle ? Et que supposait cette frontière ? Il se trouve, expliquait John Shedd, dans le cours que nous avons suivi hier soir, que l'analyse érudite des lieux de culte et des textes permettent de répondre à cette question. Vers le IIIe siècle avant notre ère, à partir d'un mille, c'est-à-dire à environ 1,6 km de la ville ancienne, s'établissent de nouvelles règles politiques, administratives et religieuses. On quitte le territoire où l'on rend le culte urbain à Jupiter, dieu du respect des procédures. Les magistrats ou les tribuns de la plèbe ne pouvaient plus, cette limite franchie, exercer de pouvoir de protection. Et, à partir de ce premier mille, on pouvait condamner à mort un citoyen romain. Autre exemple, aucun sénateur ne pouvait habiter plus loin que ce premier mille. Cet espace n'était pas vide. Les juristes romains disent que les toits des maisons du cœur de la ville jusqu'à ce premier mille étaient continus et se touchaient. Mais surtout, cette frontière, qui marquait donc une transition entre la ville et, disons, sa banlieue, son suburbium, était scandée par toutes sortes de temples publics. John Shedd a longuement étudié avec nous ces lieux de culte qui peuvent être aussi des bois sacrés comme celui consacré à Anna Perenna, qui parrainait le bon passage d'une année à l'autre. Et sur ce premier mille se trouvaient également nombre de temples privés, comme par exemple des synagogues ou des temples syriens, qui profitaient de la venue des foules. Ce soir, John Shedd va poser d'autres questions bien plus étonnantes encore sur les limites de la ville de Rome. Écoutez.
Abordons maintenant le vif du sujet, l'organisation religieuse de l'espace suburbain de Rome. Pouvons-nous déceler des traces semblables à l'aménagement religieux du premier mille ? Nous avons déjà évoqué l'existence d'une deuxième limite, au moins dans l'historiographie, celle du 5e, 6e mille de Rome. La théorie qui postule la présence de cette frontière remonte au moins à la première moitié du 19e siècle. Elle établit une limite archaïque à cette distance de Rome, c'est-à-dire à partir des portes correspondantes à la limite du Pomerium. Dans son manuel des antiquités romaines, Wilhelm Adolf Becker essayait d'identifier le territoire propre de la ville de Rome, différent des terres qu'elle a ensuite conquises progressivement. Il partait de la constatation faite par Strabon, le géographe Strabon, du début de notre ère, que les frontières des cités archaïques voisines, c'est-à-dire Collatia, Amtemne, Fidène, Labicum et d'autres, étaient très proches de Rome. C'est pourquoi Becker estimait que la frontière du territoire romain primitif ne dépassait en aucun cas le 5e et le 6e millière de Rome, vers le nord, le sud et l'est. À l'ouest, le Tibre aurait formé la frontière. Il trouvait un argument dans la célébration d'un rite appelé Ambarvalia, en un lieu appelé Festi, Festoi, nous allons en parler, situé, d'après Strabon, entre le 5e et le 6e mille, et dans la célébration des Terminalia du 6e mille de la Via Laurentina. Le territoire délimité par ces points correspondrait au territoire romain antique, Lager Romanus Anticus, que nous avons déjà mentionné. Cette idée a été reprise plus tard par Theodor Mommsen et Carl Julius Bellor, plus tard, en 1925, qui déclara que cette ligne était la limite primitive du territoire de Rome. Thomas Ashby, quant à lui, qui est un topographe très actif au début du siècle dernier, avait quant à lui tracé un cercle d'un diamètre de 4 à 6 milles autour de Rome, incluant toutes les tribus rustiques. C'était à ses yeux le territoire archaïque de Rome. En 1965, enfin, Andreas Alföldi a repris cette tradition dans le cadre d'une discussion qui concerne avant tout le problème de ces tribus rustiques et a ajouté au marqueur de la frontière identifiée par Becker un certain nombre d'autres lieux de culte. Il aboutissait ainsi au plan que vous avez déjà eu l'occasion de voir plusieurs fois et que tous nous utilisons parce qu'il est commode. Alföldi énumère les indices suivants. D'abord, le rite annuel des Ambarvalia, célébré par les pontifes entre le 5e et 6e millière en un lieu appelé Festi par Strabon, les rites annuels des frères Arval au 5e mille de la Via Campana, la fête des Terminalia au 6e mille de la Via Laurentina, le temple de Fortune Muli Ebris, la fortune des femmes, la limite entre Lager Gabinus vers le haut, nous reviendrons sur tout cela, et Lager Romanus, tel que les augures le définissaient, les Robigalia du 5e mille de la Via Claudia, et enfin une statue de Mars sur la Via Appia. Nous reviendrons bien sûr sur ces différents sites et arguments. Voyons d'abord les sites supplémentaires qui ont pu être ajoutés aux sites précédents. Reprenant une proposition qui remonte à Karl Bellor, Giuseppe Lulli, a joint en 1951 et 1968 à ces sites les Fossae qui Cluiliae au 5e mille de la Via Appia, où les Horaces et les Curias se seraient battus, ainsi que l'avertissement donné en 82 avant notre ère par le Sénat à Sylla et à Pompée, qui marchaient sur Rome dans le cadre d'une guerre civile, de ne pas franchir la limite des 40 stades, soit des 5000. Stefania Quiligigili a repris tous ces arguments un peu plus tard, en notant enfin qu'au nord, l'Agno, une rivière, paraît avoir servi de limite à peu près à 5000 de Rome. J'ai réexaminé moi-même le dossier en 1987. J'ai augmenté le dossier du temple de Fors Fortuna au 6e mille de la Via Campana, qui était oublié dans cette argumentation, et j'ai aussi signalé que lorsqu'une armée veut menacer Rome, elle s'installe traditionnellement soit à 5 milles de Rome sur les limites du vieux territoire romain, comme l'ont fait les Albains lors de la guerre qui fut la scène de la fameuse histoire des Horaces et des Curias, puis de l'histoire de Coriolan. C'est aussi ce que fit Sylla en 82 sur la Via Prenestina, je viens de le dire, Octavien en été 43 sur la Via Appia, et bien plus tard en 410 les Goths sur la Via Latina et en 455 les Vandales sur la Via Campana Portuensis. Je voudrais enfin ajouter moi-même à la liste le site de Caenina en haut, nord-est, pour des raisons qui seront données dans la suite. Et sur la Via Salaria se trouvait également, nous le savons, un bois sacré de la déesse Laverna. Dans la mesure où les sources ne donnent pas plus de précision, sur ce cas, il est difficile de trancher, mais si la théorie mentionnée était exacte, on pourrait imaginer que c'est vers la limite du 5e mille sur l'agneau dans ce coin-là que se trouverait également ce bois sacré de l'Averna. Avant d'aller plus loin, nous pouvons tout de suite constater un fait qui saute aux yeux. La rive droite du Tibre est vide. S'il n'y avait pas, donc, à l'ouest, le sanctuaire des Arvals, de Deadia et de Fors Fortuna, il n'y aurait aucun lieu de culte public sur cette partie du territoire. Il conviendra de tenir compte de ce fait, qui saute aux yeux, dans l'analyse de toutes ces données, à laquelle il faudra maintenant procéder. Car le discours qui concerne leur appréciation est encore de nos jours très varié. Pour certains, comme Filippo Coarelli ou Maria Cristina Capanna, il s'agit là de données romuléennes, ou presque. Pour d'autres, comme Alfeldi, la présence romaine n'est possible sur cette limite, notamment sur la rive droite, à l'ouest, qu'à partir du 5e siècle avant notre ère. D'autres encore, auxquels je me rallie, songent au 3e siècle avant notre ère. Toutes ces datations dépendent souvent de l'exploitation des données dont il s'agit maintenant de faire la critique. Nos conclusions détermineront la nature de l'organisation que le territoire proche de Rome a connue au cours de l'histoire. Prenons donc les sites un par un pour voir ce que nous pouvons en faire. Le premier, celui de Festoi, vous vous rappelez, pose un faux problème, parce que c'est un lieu littéraire, en fait, comme Alfeldi l'avait déjà compris. On continue pourtant d'assimiler ce lieu et les rites de l'Ambaruia Tusia qu'il comportait au site de la Maliana et au culte rendu par les frères Arval à la déesse Deadia. En 1990, j'ai repris dans un travail sur ce culte un article écrit par le savant américain Andrew Kilgour en 1938 et j'ai proposé de clore ce dossier qui a été abusivement attribué au contexte du 5e ou 6e mille de la Via Campana. Malheureusement, les collègues qui écrivent aujourd'hui sur le sujet n'ont manifestement pas lu ou accepté ces conclusions et cela m'oblige à les reprendre brièvement. Adam Zulkowski a naguère réexaminé le même dossier en détail. Il arrive aux mêmes conclusions et corrige sur certains points ma démonstration. Je vous renvoie à son étude que j'approuve en grande partie et je marquerai les points de désaccord que je maintiens tout au long de ce cours. Mais c'est un excellent article. Tout part d'un texte de Strabon, au livre 5 de sa géographie, dans lequel il écrit ceci. Entre le 5e et le 6e mille de Rome se trouve un lieu appelé Festoi. Celui-ci, explique-t-on, marque la limite antique de l'Ager Romanus. À cet endroit et en plusieurs points de la frontière, les pontifes célèbrent le même jour un sacrifice appelé Ambaruia Tusia. Fin de la citation. Ce dernier terme serait, d'après certains, un lapsus pour le mot latin ambarualia, ambaruia, sacrificium, ambaruium, sacrificium, en grec ambaruia, tusia. Alfeldi avait écarté cette hypothèse pour plusieurs raisons. D'abord, Strabon écrit que le rite des ambarualia, ou de l'ambaruia tusia, était toujours célébré par les pontifes à son époque, c'est-à-dire au début de notre ère. Ensuite, les Ambarvalia étaient célébrés en plusieurs endroits. À cela, il faut ajouter que les Ambarvalia que nous connaissons par d'autres sources étaient des rites privés. Ici, nous sommes dans un contexte public. Andrew Kilgour avait déjà dit l'essentiel, mais voici en résumé ce qu'il faut retenir dans cette histoire. Comme plusieurs travaux l'ont prouvé, le rapprochement entre les Ambarvales Hostiae mentionné par l'abrégé du dictionnaire de Festus, un dictionnaire qui remonte à l'époque augustéenne et qui était abrégé au cours du IIe siècle de notre ère. Donc, le rapprochement entre les Ambarvales Hostiae mentionné par l'abrégé tardif de ce dictionnaire de Festus et les Arvales est une erreur ou une méprise. Ce texte ne peut donc pas prouver que les frères Arval célébraient les Ambarvalia, comme pourtant de nombreux savants l'ont admis, de façon incompréhensible tant les données sont claires. Rien ne permet donc de rapprocher l'Ambarvia Tusia cité par Strabon des rites célébrés par les Arval. Ce n'est pas parce que le bois sacré de Deadia était situé à 5 milles de Rome que son culte peut être identifié sans détour à un rite qui se déroulait entre le 5e et le 6e mille. À cela s'ajoute que jamais les très nombreux protocoles des Arval ne mentionnent un tel rite, puisque les Arval avaient cette merveilleuse originalité d'avoir fait graver pendant 3 siècles sur les murs de leur temple ou d'un portique près du temple une copie épigraphique des protocoles de célébration qui rédigeaient, comme tous les autres collèges religieux, chaque année. Et nous avons conservé une grande partie de ces protocoles. Le culte de Deadia ne consistait pas dans la célébration d'un rite de circumambulation, même symbolique, des frontières du territoire romain. J'ai été choqué de lire récemment que l'on pouvait se livrer à ces spéculations alors même que les protocoles des Arval ne mentionnent jamais pendant 3 siècles ce rite. Toutes les sources peuvent être discutées et mises en doute, de même que les conclusions que les savants d'aujourd'hui et d'hier en tirent. Mais qu'on ne tienne aucun compte du fait que dans 300 pages de compte-rendu, souvent très précis, d'un culte, il ne soit jamais question de près ou de loin d'une cérémonie comme les Ambarvalia, voilà qui est une attitude inacceptable du point de vue méthodologique. C'est admettre qu'au fond, les sources antiques n'ont aucune valeur et que seules comptent les spéculations des modernes qui sont soutenues par les sources imprécises qui les arrangent. Je continue pour ma part à appliquer les règles strictes de l'utilisation des sources telles que je les ai apprises, notamment de savants comme Filippo Coarelli, et je ne peux pas le suivre dans sa mise en cause d'une documentation aussi abondante et détaillée que les protocoles des frères Arval. Car il ne s'agit pas d'une phrase elliptique et compliquée, comme celle de Festus, transmise par un manuscrit isolé, mais de milliers de caractères, de dizaines de milliers de caractères, décrivant toujours la même chose, le culte qui se déroulait au 5e mille dans le bois sacré de Deadia. Ce lieu peut-il être identifié au lieu dit Festoi, Festi ? Ce que je viens de dire contient déjà la réponse. Il n'y a aucune raison de le faire, sauf la superficielle référence du nom du rite aux Arva, aux champs. Le terme lui-même de Festoi n'a pas le moindre sens en latin. Les savants ont certes rivalisé d'astuces pour décrypter le terme, et l'on a le choix entre la référence au surnom de Publius Curatius Fistus Trigeminus, avancé par Friedrich Münzer. On a le choix entre un Fisti italique, Wilhelm Schulz, et un très astucieux Festo pour Finis Esto, que ce soit la limite ici, dû à Edward Norden. La palme dans cet exercice un peu gratuit revient à l'hypothèse émise au XIXe siècle par un collègue italien cité par Christian Hülsen dans sa topographie de Rome, qui traduisait Festi tout simplement par il luogo della festa, le lieu de la fête. Tout cela, bien entendu, n'a pas le moindre sens. Il en résulte que le dossier de l'Ambarvia Tusia et du lieu dit Festoi doit être retiré tout simplement de celui des Arval. Et cela d'autant plus que nous connaissons le nom de l'endroit où officiaient les Arval. Et cela, donc, à l'époque notamment, où Strabon a écrit son texte. C'est contemporain. Il est connu, ce lieu, par une inscription. Le palmarès du cavalier-coureur. Un cavalier-coureur, un coursor, c'est quelqu'un qui conduit un attelage. Et avant le dernier tour, il semble, il sautait de l'attelage et terminait à pied. C'était des sports très compliqués. Donc le palmarès du coursor, du cavalier coureur Fuscus, qui figure sur son épitaphe, énumère des victoires remportées dans des cirques situés dans 3 lieux. Romae, à Rome, Bovilis, à Bovillae, sur la Via Appia, ainsi que « at deam diam » auprès de Dea Dia. Il est clair que l'épitaphe du sportif nous apprend le toponyme du site antique. Les cas sont nombreux dans le monde romain de toponymes formés à partir du nom d'une divinité qui y possédait un temple. Dans notre inscription, le site « at deam diam » est cité à côté des courses qui ont lieu dans les cirques de Rome et dans celui de Beauvillet, au lieu de culte de la Domus Augusta, de la famille Auguste, siège du sacerdoce romain des Sodales Augustales. Il s'agit donc clairement, puisqu'ils sont côte à côte, de trois toponymes. Cette information, qui date de l'année 35 de notre ère, établit également que le lieu n'avait pas, comme le site de Beauvillet, un nom particulier, Festoi ou autre. L'inscription ne mentionne à cet endroit qu'un seul lieu de culte, lequel était lié à des courses de chars. Il n'y avait par ailleurs aucun habitat, village ou pagus ancien ou contemporain de la restauration augustéenne de ce culte. Si Auguste avait souhaité signaler que le bois sacré de Dea Dia correspondait à un habitat ou à un lieu dit mémorable, le nom du site l'aurait traduit, et à l'époque de Tibère, ce nom aurait certainement été employé. L'inscription de Fuscus prouve par conséquent, à sa manière, que le site de la Maliana ne s'appelait pas Festoi à l'époque augustéenne et au début de notre ère. Ce qui ne signifie pas pour autant que le renseignement de Strabon est privé d'intérêt, bien entendu. Il faudra le retenir comme preuve de l'existence de rites célébrés en plusieurs points du territoire de Rome entre le 5e et le 6e mille par les pontifes, qui commençaient apparemment leur périple à partir du lieu dit Festoi, qui est soit un terme corrompu, soit un lieu inconnu. Restons un instant sur la Via Campana pour mentionner un élément important qui n'a pas été ajouté jusqu'à une date récente au dossier. Sur le site auprès de Dea Dia, que fréquentait la confrérie Arval sous l'Empire, existait encore un autre temple, celui de Fors Fortuna, la fortune chanceuse. Le deuxième temple que cette déesse possédait sur la rive droite du Tibre. L'épitaphe de Fuscus ne cite pas Fors Fortuna pour des raisons évidentes. Son culte ne comportait pas de course conclusive et Fuscus n'avait pas pu y remporter une victoire. Les témoignages de l'existence du temple de Fortune à cet endroit sont de double nature, écrits et archéologiques. D'après Tite Live, le consul de 293 avant notre ère, Spurius Carvilius, y construisit en 292 avant notre ère le temple, Fors Fortuna, en acquittement d'un vœu prononcé lors de la bataille de Sentinum. Par ailleurs, Ovide, ainsi que les calendriers épigraphiques du début de notre ère, mentionnent que ce temple est situé à l'extérieur de Rome, en suivant le Tibre, plus précisément à 6 milles de Rome. Ces données, et celles qui concernent le temple de Fors Fortuna du 1er mille dont nous avons déjà parlé, ont été diversement appréciées par les historiens et les archéologues. Deux opinions s'affrontent, celle qui a été exprimée par un grand nombre d'historiens du XIXe siècle et celle qu'émirent notamment Platner Ashby, Giulio Jacopi et Giuseppe Lulli. Les premiers considèrent que Fors Fortuna possédait deux temples sur la rive droite du Tibre, l'un au premier, l'autre au sixième mille de la Via Campana, comme les calendriers le disent, « at miliarium primum et sextum ». Ça, c'est donc la position traditionnelle. Ces deux temples auraient été reconstruits ou restaurés par Spurius Carvilius Maximus, celui du 6e mille, et par Tibère, celui du 1er mille. Le temple du 6e mille est généralement identifié aux restes découverts par Wilhelm Hansen en 1868 et celui du 1er mille au soubassement retrouvé en 1860 dans la Vigna Costa à la hauteur de l'actuelle Via Francesco Chiappini derrière la station de chemin de fer du Trastevere. À cette hypothèse s'oppose celle de Plätner et Ashby dans leur dictionnaire topographique par Lulli et Jacopi qui partent d'une interprétation littérale des textes. considérant que Ovide écrit que les temples de Fors Fortuna étaient voisins, propinqua, et que Tite-Live affirme que Carvilius construisit son sanctuaire à proximité, prope, de celui de Servius Tullius, celui du premier mille, ils ont conclu que le temple du sixième mille devait être exclu de ce contexte parce qu'il serait trop éloigné du premier mille pour que l'on pût encore parler de proximité. D'autre part, Tibère a dédié son temple à la fin de l'année, alors que les temples mentionnés par Ovide célébraient leur anniversaire, tous deux, le 24 juin. Il faudrait par conséquent, d'après Platner, Ashby et Lully, distinguer ce sanctuaire des autres. Ces savants supposent donc qu'il y avait deux temples voisins aux alentours du premier mille. Giulio Jacopi crut, quant à lui, identifier le temple manquant lors de ses fouilles un peu plus vers l'aval, sur la rive de Pietra Papa, c'est la rive du Tibre en face de Saint-Paul, de la basilique Saint-Paul, et apporter ainsi la preuve qu'il y avait au moins trois temples, celui du sixième mille, celui des jardins de César qui a été restauré par Tibère, premier mille, et enfin celui de Pietra Papa. Filippo Coarelli récuse le temple de Pietra Papa, mais hésite à propos de l'attribution du temple du sixième mille à Carvilius. On conçoit mal la coexistence de trois ou même quatre temples de la même déesse sur la Via Campana, dont trois à une distance de quelques centaines de mètres. Pour approfondir la réflexion, il convient en fait d'examiner deux problèmes autour desquels tourne la discussion. La prétendue proximité des temples et la divergence des anniversaires de consécration. Il est impossible de déduire un renseignement topographique très précis des termes prope et propinqua, employés par Tite-Live et Ovide pour situer les deux temples, car le sens de propinquus et de prope est très relatif et varie selon le contexte. Dans l'un ou dans l'autre texte, les termes peuvent désigner des monuments distincts de 4000. Si vous regardez ça très globalement par rapport à la topographie de Rome comme un écrivain, on peut admettre que c'est à proximité. Rappelons aussi que les calendriers épigraphiques du début de l'Empire ne mentionnent que deux temples de Fors Fortuna situés bien l'un au premier mille, l'autre au sixième. Où sont les autres ? La divergence existante entre la date anniversaire des temples républicains et celle du temple de Tibère et de celui du sixième mille suffit à Platner Ashby pour distinguer ce dernier du ou des temples du premier mille de la Via Campana. Il s'agit en fait d'un faux problème, dans la mesure où il n'était pas rare que la date anniversaire d'un temple soit modifiée à l'occasion de sa restauration, ainsi qu'en témoignent les exemples suivants, et cela arrivait assez fréquemment à l'époque d'Auguste, où vous pouvez voir que, sous la République, certains temples avaient une date, par exemple Minerve sur l'Aventin le 19 mars, restauration sous Auguste, 19 juin. Honos et Virtus, on ne connaît pas son anniversaire sous la République, mais en 17 avant notre ère, il est restauré, et désormais l'anniversaire coïncide au 15 juillet, qui est d'ailleurs le jour où a lieu la cavalcade des chevaliers romains qui vont, à partir de ce point, sacrifier sur le Forum et au Capitole. Jupiter Stator, 13 janvier, après une restauration non datée, 27 juin. Quirinus au Quirinal, 29 juin, 16 avant notre ère, restauré, désormais 17 février. Et ainsi de suite. Vous voyez, j'ai uniquement mis les cas bien connus. L'exemple du temple de Minerve in Aventino, sur l'Aventin, démontre même que la fête originelle, c'est-à-dire la fête traditionnelle de Minerve, les Quinquatrus du 19 mars, pouvait continuer à être célébrée parallèlement au nouvel anniversaire du temple, parce que la fête de la déesse n'est pas la même chose que l'anniversaire de son temple. Bref, rien ne nous empêche de considérer que le temple reconsacré par Tibère était l'ancien temple de la Via Campana du premier mille, même s'il possédait désormais un anniversaire de dédicace propre qui était indépendant de la fête de Fortuna, de Fors Fortuna, du 24 juin, que vous avez vu. Nous pouvons par conséquent considérer que Fors Fortuna ne possédait que deux temples sur la rive droite du Tibre, celui du premier mille, qui fut reconstruit ou restauré par Tibère, et celui du sixième mille, qui fut construit en 292 par Spurius Carvilius. Quant à l'attribution des sanctuaires originels, soit celui du premier, soit les deux, à Servius Tullius, il faut d'abord commencer par rappeler qu'il s'agit de légendes. On peut d'ailleurs supposer que ces traditions étiologiques étaient fondées sur l'âge relativement ancien des deux temples. Ça, c'est à la limite imaginable. Ce ne sont pas deux temples d'époque augustéenne, sinon la référence à Servius serait absurde. Nous y reviendrons. La fête commune des temples, attestée par les calendriers et le témoignage d'Ovide, pourrait plaider pour l'existence d'un même fondateur, quel qu'il fût, pourquoi pas. Les témoignages de Varron, de Tite-Live et de Denis d'Halicarnasse semblent toutefois accréditer l'opinion que les deux temples ont eu des fondateurs différents, quels qu'ils aient été. Il est difficile d'aller plus loin. Ces données textuelles, maintenant, ont été confirmées par des fouilles pour ce qui concerne le temple du 6e mille. Et ça, ce sont des documents inédits qui sont, enfin, à moitié édités, dont on ne tient pas compte. Au cours des fouilles des années 1866 et 1870, furent découverts à la Maliana, donc au 5e, 6e mille, trois petits hôtels en travertin dédiés à Force Fortuna par des collèges d'artisans. La première inscription a été découverte près de la gare de la Maliana, dans un mur de chaux et de travertin, dont nous ignorons s'il était antique, c'est tout ce que nous savons. Elle mentionne un don fait à Force Fortuna par le collège des bouchers du quartier romain de la Piscina Publica, et énumère les présidents, les deux magistri de cette association, qui sont des affranchis. Une deuxième inscription a été posée par les présidents de cette même association de bouchers ou d'une autre. Ces présidents sont de statut affranchi ou servile. L'inscription a été découverte, cette fois-ci, dans les déblais de la catacombe qui coiffe le site du 6e mille. Une troisième pierre, dressée par les présidents des collèges de fleuristes et de fabricants de couronnes, fut découverte du côté de la même gare, la Maliana. Quelques années plus tard, un quatrième hôtel a été déterré, toujours à proximité de la gare de la Maliana que vous traversez quand vous allez avec le métro à l'aéroport de Fiumicino. Il provient du collège des bronziers et de ses présidents. Ces bases de travertin, en raison du matériau employé, et les noms aussi, la manière dont ils s'appellent de ces présidents, renvoient au 1er siècle avant notre ère, sans doute à la première moitié du siècle, sauf le 4e qui peut être plus tardif. Mais enfin, ils sont tous du début du 1er siècle avant notre ère. Et ces découvertes ont d'ailleurs incité le fouilleur du site, Wilhelm Hansen, a situé dans cet endroit précis le temple de Force Fortuna du 6e mille. Cette localisation, avec des hôtels trouvés dans des murs, dans des déblais de la catacombe, etc., s'est trouvée confirmée, s'il en était besoin, par un fragment d'un 5e hôtel en travertin qui a été découvert en 1984 par mes propres fouilles dans une couche archéologique, donc en place. Et vous pouvez lire qu'il s'agit de nouveau d'un collégium qui était, ou deux collèges qui ont fait quelque chose, Forti Fortunae, on a le RT et le reste du U, donc A Force Fortuna, et puis le reste est reconstitué d'après les autres inscriptions. Même s'il s'agit d'un infâme petit fragment, cette découverte, à laquelle on peut joindre quelques fragments d'un ex voto en terre cuite, prouve que les autres inscriptions provenaient bien du même endroit et établissent sans la moindre ambiguïté que le temple de Force Fortuna se trouvait à la Maliana, près de la gare. Voilà l'emplacement, le chemin de fer, la gare se trouve ici et le chemin de fer passe là. Et c'est ici que nous avons trouvé ces deux éléments. À ces données s'ajoute d'ailleurs un troisième document, un fragment d'antéfix que nous avons pu récupérer en 1976 après les travaux effectués sous la voie ferrée. Vous voyez là ce passage, les escaliers d'un passage souterrain Et nous avons pu fouiller sous la voie ferrée et nous avons récupéré ce fragment magnifique d'Antéfix, de la Potnia Théron, la maîtresse des animaux, qui date du 4e, 3e siècle avant notre ère et peut donc parfaitement corroborer les témoignages de Tite-Live et provenir même du temple de Spurius Carvilius. Dans la mesure où le témoignage de l'Antéfix est recoupé par les inscriptions, il prouve l'existence d'un temple à cet endroit au 4e, 3e siècle, et sans doute s'agitait-il, comme les inscriptions le laissent penser, d'un temple de force Fortuna. Théadia, son culte et son lieu de culte, ne sont connus qu'à partir de la fin de la République et surtout à partir d'Auguste. L'encyclopédiste Varron, à l'époque de Cicéron et de Jules César, évoque le nom des frères Arval qui sont chargés de ce culte sous l'Empire et explique leur nom par l'étymologie. Nous y reviendrons, mais disons pour l'instant que rien ne prouve que ce culte ait existé avant Auguste comme grand culte public et à la Maliane. Il n'y est attesté qu'à partir du début de notre ère. Nos fouilles ont produit des niveaux de l'époque impériale et un certain nombre de couches d'occupation de la fin de la République, ainsi qu'une antéfix et un fragment d'autel que vous avez vu. Cette chronologie va du 3e siècle avant à l'Antiquité tardive. Aucun nouveau archaïque n'a été découvert lors de nos fouilles, pas plus qu'au 19e siècle, lorsque le site fut exploré, ou labouré plutôt, pour la première fois. En 1868, certes, un court article de Michele De Rossi, le frère du grand spécialiste des catacombes et des inscriptions chrétiennes, paru dans le Journale Arcadico à Rome, rendait compte de la découverte, lors des fouilles de son frère en cours à la Maliana, d'un ensemble, il s'agissait des fouilles de la catacombe, d'un ensemble de 18 fragments de vases que Michele De Rossi attribue à l'époque glaciale. Nous avons montré ces dessins à une spécialiste de céramique glaciale, donc très, très ancienne, la culture du Latium, comme on dit, Anna Maria Bietti-Sestieri, qui n'a pas pu, avec ses dessins, y reconnaître des formes de vases identifiables de cette période. Une recherche menée par ses soins dans les dépôts des musées de Rome n'a pas non plus donné de résultats. Donc tout ça a irrémédiablement disparu. L'information de Michele De Rossi ne peut donc pas être utilisée. Deux témoignages isolés de l'époque archaïque ont été découverts par nous en 1988 dans une couche, malheureusement, du 3e siècle de notre ère, sur la marge occidentale de notre site. Ce sont un fragment informe et un bord de vase en impasto, en pâte non tournée, datable du 9e siècle avant notre ère. Et vous voyez l'échelle, n'est-ce pas? Ils ne sont vraiment pas très grands. Et l'autre fragment qui est informe est aussi petit, mais il est parfaitement reconnaissable. Il est en soi vraisemblable qu'il y ait eu, à l'époque glaciale, un habitat et une nécropole à la Maliana ou dans les environs. Toutefois, le contexte de la découverte de nos fragments ne suffira pas pour conclure à l'existence d'un habitat ou d'une nécropole sur le site que nous avons exploré. En effet, le secteur méridional du site était régulièrement inondé par le Tibre, qui coule à une cinquantaine, centaine de mètres à peine, et il est imaginable que deux fragments aussi petits et aussi légers aient pu être déposés par une inondation là où nous les avons découverts. Jusque dans les années 30, tout ce quartier était régulièrement inondé dès qu'il y avait un peu d'eau dans le Tibre. Donc, il est tout à fait vraisemblable qu'un petit débris comme ça, très léger, ait pu être charrié par le Tibre. Autrement dit, les données recueillies à la Maliana attestent l'existence de deux lieux de culte à cet endroit, le premier sans doute à partir du 4e, 3e siècle avant notre ère, le second à partir du début de notre ère, au plus tôt d'après notre documentation. Il n'est donc pas possible d'utiliser le site de la Maliana pour prouver que les Romains ont occupé cette zone depuis Romulus, comme on peut le lire souvent chez des historiens ou des archéologues, qui suivent les données de la mythologie plutôt que celles de la discipline, de l'archéologie. Ce n'est vraisemblablement qu'après la prise de la cité étrusque de Veille, au début du IVe siècle avant notre ère, vers 390, que les Romains ont réussi à franchir le Tibre en aval de Rome et à conquérir toute cette zone. Je suivrai sur ce point l'analyse de Andreas Alföldi et de Carmine Ampolo. Prenons maintenant un troisième site qui est toujours utilisé, celui des Terminalia, le sacrifice au dieu Terminus, qui est situé presque en face du site de la Maliana sur la rive gauche du Tibre et qui n'est autrement pas attesté. Nous étions là, n'est-ce pas ? Nous franchissons le Tibre et ce serait ici. Nous connaissons ce site uniquement par une source littéraire qui le localise au 6e mile de la Via Laurentina, la route qui reliait Rome à Laurentum, c'est-à-dire au pays des Laurentes, à Lavinium. Dans les Fastes, Ovide écrit qu'il y a une route qui conduit au pays des Laurentes. Sur cette route, la 6e borne en partant de Rome te voit offrir Terminus, les entrailles d'une bête porte-laine. Une importante fouille a eu lieu à partir des années 70 du siècle précédent, un peu plus loin, vers le 7e mile de la Via Laurentina, à Aqua Acetosa. Pour Alessandro Bedini, le fouilleur de l'endroit, rien ne permet d'identifier cet habitat au site des Terminalia, comme le font l'auteur de cette carte. Vous voyez, sans problème, Aqua Acetosa est mis dans les limites du territoire, ou comme Giovanni Colonna, dont nous avons parlé la dernière fois, et comme Filippo Coarelli l'a encore récemment, prudemment, il est vrai, soutenu dans le volume sur le Suburbium. Il est toutefois indéniable que pour Ovide, le sacrifice décrit est un culte de confins à la frontière entre le territoire de Lavinium et celui de Rome. Si l'information d'Ovide est exacte, le culte daterait d'avant la conquête de Lavinium, en 338 avant notre ère, puisqu'après cette date, la cité disparaît et sa frontière avec elle. Continuons la visite des sites. Les Fossae Cluiliae, que donc Giuseppe Lulli a ajouté au dossier, étaient situées au 5e mile de la Via Appia. Carl Julius Pelor et déjà Bartholdt Niebuhr ont identifié la Fossa Cluilia avec la Marana dell'Aqua Mariana. C'est à cet endroit que l'armée des Albains se serait arrêtée avant le duel mythique entre les Horaces et les Curias. À l'endroit du fameux combat auraient été construits de somptueux tombeaux destinés aux deux Horaces et aux Curias, dont Tite-Live parle au présent, je crois. Filippo Coarelli a repris ce dossier. Il part des découvertes de Giovanni Pinza, qui fouilla l'endroit en 1906. Pinza avait découvert un fossé naturel qui coupait le tracé de la route et semblait antérieur à celle-ci, puisque vous savez qu'avant le IVe siècle, il n'y a pas de Via Appia, c'est simplement une commodité pour parler du chemin préhistorique qui passait par là. Il proposa d'identifier cette tranchée, ce fossé naturel, aux fosses Cluiliae. Comme Luigi Canina l'avait déjà signalé en 1852, Luigi Canina, la Via Appia fait à cet endroit un petit détour de la ligne droite comme pour éviter ce fossé. Dans l'espace ainsi créé se trouve un petit monument carré qui reprend un monument semblable mais plus ancien. Il ne peut toutefois pas être antérieur à l'époque médio-républicaine, à laquelle la Via Appia n'existait pas, avant laquelle. À environ 400 mètres au sud et au nord de ce fossé, il existe un groupe de tumulus qui paraît correspondre effectivement à l'indication de Tite-Live. Deux tumulus se trouvent en direction d'Albe la Longue, c'est-à-dire vers Castel Gandolfo, et que l'on appelle communément tombeau des Horaces. Les bases en pépérin de ces monuments comportent des modénatures que Filippo Coarelli considère comme archaïsantes, pas archaïques, mais archaïsantes. Vers le nord, on trouve un troisième tumulus, un peu plus loin, qui fut fouillé en 1906. Il comporte une fondation en mortier entourée d'un anneau extérieur en marbre. Les modernatures, comme le type même d'architecture, datent de l'époque augustéenne. Il semble s'agir d'un tumulus couronné par une statue. Derrière ce tumulus se trouvait une enceinte en opus quadratum, en gros bloc de pépérin, un tuf de Rome, de 100 mètres sur 50 environ, que l'on a identifié à un bûcher funéraire, mais dans laquelle, structure dans laquelle Filippo Coarelli préfère voir le Campus Horatiorum, le campement des Horaces dont parle Martial. Un quatrième tumulus est situé un peu plus loin, vers le cinquième mille de la voie Appienne. Avec le précédent, ce serait là deux des trois tumuli des Curias évoqués par Tite-Live. Cet ensemble de monuments aurait été réalisé entre la fin de la République et le début de l'époque augustéenne et serait, d'après Coarelli, une création archéologique d'Auguste. Rappelez-vous qu'il a insisté sur les modénatures, les moulures archaïsantes de ces pièces, qui seraient donc ces monuments une création archéologique d'Auguste destinée à réactualiser le mythe des Horaces et des Curias. Cette conclusion, qui est imposée par des données archéologiques, est importante et nous l'utiliserons plus loin. Toujours sur la Via Appia, nous pouvons éliminer la liste des lieux de culte au 5e mille, la statue de Mars et celle des loups, qui sont connus par un certain nombre de prodiges. Avant les guerres, ils se mettent à transpirer, etc. Alfeldi les situait au 5e mille de la Via Appia, mais à tort, comme Adam Zulkowski l'a démontré, car aucun monument de ce type n'est attesté à cet endroit. Ces statues, Mars et les loups, appartenaient en fait à l'environnement du temple de Mars du premier mille de la même voie que nous avons vu la dernière fois, c'est juste devant la porte à San Sebastian. Le cinquième mille revient encore dans une autre légende, celle de Coriolan, comme je l'ai déjà cité, qui avait été exilé de Rome et attaqua sa patrie en 487 avant notre ère, à la tête d'une armée de Volsques, pour se venger. Comme les Albains, Coriolan aurait installé lui aussi son camp lors de la première de ses expéditions au cinquième mille de la Via Appia, et comme Octavien le fit encore en 43 avant notre ère lors de sa marche sur Rome. La célèbre visite effectuée par la mère de Coriolan, par sa femme et par les matrones romaines, venues sauver Rome que leurs époux ne pouvaient défendre les armes à la main, eut lieu cependant lors d'un deuxième épisode, une deuxième invasion, à un endroit fixé traditionnellement au quatrième mille de la Via Latina. Pour honorer l'exploit des femmes, des matrones qui avaient réussi à arrêter Coriolan et sauvèrent ainsi Rome, un temple à Fortuna Muliebris, fortune des femmes, y fut construite, après des péripéties qui opposèrent les matrones au Sénat. Ce dernier s'opposa au désir des matrones de commémorer leur haut fait par le temple de Fortuna, une femme n'a pas le droit de dédier un temple, mais à la fin, un compromis décida que le terrain où le temple serait construit serait acquis avec des fonds publics et que le culte serait financé par des crédits publics, mais célébré par une matrone. Les matrones elles-mêmes posèrent en outre un monument commémoratif à côté de ce temple. Ce temple existait réellement, et nous savons par les calendriers que son anniversaire tombait le 6 juillet. Il est certainement plus ancien que la fin de la République. Un document important et très intéressant aussi pour les femmes impériales, une inscription due à Livie, l'épouse d'Auguste, atteste sa restauration au début de l'Empire. Il n'est pas exclu que Livie, en tant que première matrone, first matron of Rome, ait été en charge du culte de cette déesse. Une deuxième restauration fut exécuté d'après la même inscription par Septime Sévère, ses fils et son épouse entre les années 197 et 209 de notre ère. Pas davantage que les autres lieux de culte que nous avons vus jusqu'à présent, le temple de Fortuna Muliebris n'est attesté archéologiquement à l'époque archaïque. En revanche, il est l'objet d'une restauration au début de l'Empire. Il faudra s'en souvenir. Ainsi que Adam Zulkowski le souligne, aucun auteur antique ne décrit le quatrième mille comme la limite du territoire romain. Et en outre, ce temple se trouve en fait à un mille en deçà de la fameuse limite du cinquième mille. Je crois que là, il ne faut pas aller trop loin parce que j'imagine bien un cercle de sanctuaires vers le cinquième mille. Mais enfin, c'est un argument qu'il faut toujours citer au moins. Le suivant, Lager Gabinus. Si l'on en croit un passage de Varron, les augures du peuple romain désignent, identifient, nomment cinq catégories de territoires. Je cite, comme l'exposent nos augures officiels, il y a cinq catégories de territoires, des agri, le Romanus, le Gabinus, le Peregrinus, l'Osticus et l'Incertus. Le Romanus, Lager Romanus, hein, vous connaissez cette terminologie maintenant. Lager Romanus tire son nom de Romulus, d'où vient Roma. Le Gabinus, Varron fait de l'étymologie, hein, c'est ça qui l'intéresse. Le Gabinus vient de la ville de Gabii. Le Peregrinus est un territoire, littéralement le territoire étranger, est un territoire pacifié, distinct du Romanus et du Gabinus parce que, dans ces deux-ci, les rites de l'observation augurale répondent à un seul et même type. Lager Peregrinus tire son nom de pergere, avancer, c'est-à-dire progredi, aller de l'avant, car c'est sur ce territoire que se fit la première marche en avant à partir de Lager Romanus. Pour la même raison, Lager Gabinus devrait aussi être Peregrinus, mais comme il a ses rites auguraux particuliers, il est classé à part. Lager Hosticus tire son nom de Hostes, les ennemis. Lager Incertus est celui qu'on ne sait où classer dans les quatre catégories ci-dessus. Cette distinction des prêtres renvoie à la période postérieure à la conquête de Gabii, puisque son territoire, même s'il reste étranger, appartient à l'espace dans lequel les prêtres romains font leurs observations. Que la limite entre Rome et Gabii doive être cherchée là où Alfeldi la place n'étonnera personne, puisque cette limite correspond au cours de l'Agno, une rivière qui se jette au nord de Rome dans le Tibre, ainsi que Stefania Quiligili l'a déjà souligné. Néanmoins, d'autres, comme Carl Julius Pelor et Alexandre Grandazie, la cherchent plus loin, près du 9e mille de la Via Prenestina, où a été découvert un dépotoir de matériel votif, qui a été publié par Tim Potter. Merci beaucoup.
Collège de France, avec ce soir John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France. Réalisation Dominique Costa, présentation Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours consacré au territoire de la Rome antique et nous retrouvons tout de suite, les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.